Quotidien avec Hélène Denis.
C'est le 18 décembre 2025. Je réalise, en fait, c'est vous, Mathieu, qui m'avez fait réaliser que c'était ma dernière émission de l'année.
Ben oui, on vous la souhaite belle et bonne.
Ben, vous de même.
Ben, j'espère bien.
Vous, ce sera aussi votre dernière émission
ben,
de l'année.
Ben, vous me le faites réaliser à l'instant.
Alors, chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous souhaite un agréable jeudi tout doux ce matin. À trois jours du solstice d'hiver, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, plusieurs grands classiques de Noël en musique et puis de la belle visite. C'est la deuxième fois que je l'ai en entrevue et c'est toujours un petit peu énervant. Grégory Charles, musicien, chanteur et animateur qui sera avec nous. En fait, c'est une entrevue téléphonique, mais il sera là pour parler de Tous en chœur pour Noël, un épisode spécial d'une heure où Grégory Charles retrouve le cœur composé de personnes vivant avec l'Alzheimer. Et encore une fois, ça donne des moments très touchants. Il sera avec nous autour de 10h45 dans ces eaux-là. On aura les parasports en compagnie de Dominique Tremblay. Et puis, on retrouve nos collaborateurs, nos précieux collaborateurs du jeudi qui sont pas mal toujours fidèles au poste. Monique Kirouac. Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène.
Et Yvan Deslauriers. Bonjour, Yvan.
Bonjour, Hélène.
Alors, Yvan, aujourd'hui, vous allez nous raconter une histoire qui est difficile, mais impressionnante, celle de Shona Burke.
Oui, Shona Burke, c'est une personne qui a dédié sa vie à la recherche concernant le cancer. Elle est intéressée à savoir si l'activité physique pouvait avoir un effet sur le cancer. Jusque-là, c'est des informations que j'ai déjà transmises dans d'autres lectures. Mais dans ce cas-là précis, c'est que Shona Burke a appris, il n'y a pas très longtemps, qu'elle-même était touchée d'un cancer et d'un cancer incurable. Et je vais vous raconter un peu de quelle façon elle a décidé de réagir à cette situation-là.
Elle est admirable, cette femme. Merci, Yvan. Et puis, Monique, Marcel Bissonnette, lui, qui est-il?
Ben, Marcel Bissonnette, Hélène, c'est un professeur-chercheur du département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal. Mais ce qui est particulier, en fait, c'est qu'il vit avec le syndrome de Gilles de la Tourette. Mais il a réussi à faire un doctorat. Alors, il nous explique, en fait, parce que je pense qu'on a plus ou moins une bonne connaissance de ce syndrome. On a plein de préjugés à l'égard des personnes qui souffrent de ce syndrome. Et il nous apporte donc un éclairage plus, je dirais, juste de ce qu'est ce syndrome et peut-être une façon d'intégrer de façon plus harmonieuse les personnes qui ont une différence et qui pourraient mieux s'intégrer au système éducatif.
Parce que souvent, quand on comprend, bien, on est plus, tolérant, mais c'est pas le mot.
Oui, exactement. Ouvert. Plus tolérant, plus ouvert. Mm-hmm. Mais il faut éduquer les gens à cet égard. Oui. Alors, vous allez voir, c'est assez intéressant comme article.
Merci, bon. Monique. Alors, on commence avec nul autre que Ginette Renaud pour ouvrir cette émission du 18 décembre 2025.
Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Hurry up, hurry up, hurry up, ohé, ohé du traîneau. Oh, m'étouffez-vous bien dans vos manteaux. Hurry up, hurry up, hurry up, ohé, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir défilant comme un décor peint. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. un peu, c'est l'instant des fois. Toi, tu souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. L'attelage a déjà pris le chemin du retour. Nous allons être surpris par la tombée du jour. Je me vois déjà près de toi, le rire aux yeux, le cœur content, près du grand feu de bois qui flambe et nous attend. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots, et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le ballon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Hurry up, hurry up, hurry up, oh oui, du traîneau. Oh, m'étouffez-vous bien dans vos manteaux. Hurry up, hurry up, hurry up, oh oui, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir défilant comme un décor peint. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois je crie car ça penche un peu, c'est l'instant des fois. Toi as-tu souri, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. C'est merveilleux de voir défilant comme un décor peint. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois je crie car ça penche un peu, c'est l'instant des fois. Toi, tu souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid. Toi, tu souris, j'ai le cœur amoureux et le bout du nez froid.
Promenade en traîneau et Ginette Renaud. Quelle interprète, quelle voix merveilleuse. À la une du Devoir de ce jeudi 18 décembre, une scène déchirante, les adieux au rabbin de Bondi en Australie. Dans une synagogue bondée, emplie de cris et de larmes, la communauté juive de Sydney traumatisée a rendu hommage mercredi au rabbin Elie Schlinger, première victime de l'attentat antisémite de la plage de Bondi, à être mise en terre. Celui qui était connu sous le nom de rabbin de Bondi a été abattu dimanche sur cette plage de Sydney lors de l'attentat le plus meurtrier en Australie depuis des décennies. La police a inculpé mercredi Navid Akram, l'un des deux auteurs présumés de l'attentat sur une plage de Sydney, pour terrorisme et 15 meurtres. Crise au PLQ, Rodriguez jette l'éponge. Le chef du Parti libéral du Québec a confirmé mercredi à ses députés qu'il quittait bel et bien son poste. Monsieur Rodriguez doit s'adresser aux médias ce matin à compter de 10h30. Vers un quartier des métiers d'art, imaginez une balade sous l'édifice Farine Five Roses où se moue encore de la farine entreposée dans de hauts silos de béton. Imaginez continuer vers l'édifice voisin, l'ancien Montreal Dry Dock, et y trouver, plutôt que des graffitis, une vitrine de création d'artisans du Québec en cuir, en verre, en textile, en joyaux ou en bois. Imaginez passer la porte pour visiter ensuite l'expo à l'affiche et dans les autres usines abandonnées dans la rouille et la poussière autour. Imaginez toutes les écoles de métiers d'art du Québec rassemblées si près du canal de la Chine et leurs étudiants et leurs idées. Et des résidences pour artisans et un espace vert. Telle est la vision de ce quartier des métiers d'art que présente le Conseil des métiers d'art du Québec, le CMAQ. Le quartier s'étendrait sur presque 31 000 mètres carrés. Il permettrait de revitaliser et de réinventer les bâtiments industriels du bassin Wellington, explique Catherine Charron, qui est responsable du projet. Et il pourrait se construire un édifice à la fois. Le projet répondrait à tous les besoins urgents de nos artistes en métier d'art en mettant en avant la production et la créativité d'ici. On souhaite que ça se réalise. C'est un projet qui fait rêver. À la une, Journal de Montréal, fling flang au Parti libéral, Pablo s'en va. Plusieurs chroniques là-dessus. Pas fini d'entendre parler de fling flang, Antoine Robitaille, la réputation libérale entachée, Philippe Léger. Mathieu Bock-Côté, un départ nécessaire. Le PLQ n'est pas sorti de l'auberge, José Legault, et Rodriguez, le chef qui flottait, Emmanuel Latraverse. C'est aussi la une de la presse, le sujet donc du jour et de la semaine, ces derniers jours en tout cas. Ça va pas trop bien au Parti libéral du Québec, c'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant, c'est le chef qui va bientôt annoncer officiellement sa démission. Il l'a annoncé à son caucus, mais il va le faire en conférence de presse. C'est annoncé pour 10h30 ce matin. Après un mois de tourmente, le chef Pablo Rodriguez cède à la pression et jette l'éponge. La campagne à sa succession prend déjà forme. Arrivé deuxième dans la dernière course à la direction, Charles Milliard plaide pour le renouveau de la formation. Guichet de crypto-monnaie aux États-Unis, couche-tard sur la sellette et militaire arrêté pour ingérence étrangère. Des agents ukrainiens auraient menacé le Canada. C'est un texte de Vincent Larouche et de Gabriel Duchesne qui font partie de l'équipe d'enquête de la presse. Des agents ukrainiens auraient utilisé des informations secrètes fournies par le militaire canadien arrêté la semaine dernière afin de menacer le Canada et de tenter d'obtenir des avantages selon des éléments de preuve présentés devant un juge militaire lundi. L'adjudant maître Mathieu Robert, un membre d'une unité du renseignement des forces armées dans la région de la capitale fédérale, a été arrêté la semaine dernière dans la foulée d'une enquête commune de la police militaire et de la gendarmerie royale du Canada en lien avec des infractions à la loi sur l'ingérence étrangère et la protection de l'information. Le militaire de 43 ans est accusé d'avoir fourni des secrets militaires à une entité étrangère qui serait affiliée au service de renseignement d'un pays étranger. Le quotidien The Globe and Mail et le réseau CBC ont révélé cette semaine que ce pays serait l'Ukraine. Le ministère de la Défense a refusé de confirmer l'information à la presse. Aussi, dans Le Devoir, j'y retourne parce qu'on a un bel oiseau dans le cahier 2. On parle de visite rare d'un grand-duc au jardin botanique. Le Devoir a pu observer et photographier cet imposant rapace nocturne alors qu'il se reposait au sommet d'un arbre. Il était perché en hauteur et au plus près du tronc d'un grand conifère d'un secteur du jardin botanique de Montréal. Le Devoir a tout de même eu la chance de photographier ce grand-duc d'Amérique, un rapace qui est passé maître dans l'art de se fondre dans le décor des zones boisées, tandis qu'il se reposait en plein jour avant de reprendre ses activités nocturnes, malgré un plumage qui lui offre un camouflage efficace en milieu naturel. Ce hibou, doté d'aigrettes proéminentes et de grands yeux jaunes, peut être bien visible, à condition de savoir qu'il est présent dans le secteur. Il faut dire qu'il peut atteindre une hauteur de près de 60 cm pour une envergure d'aile dépassant 1,5 m. Au Jardin botanique de Montréal, il a d'ailleurs suscité récemment, pendant quelques jours, le vif intérêt de certains des nombreux photographes animaliers qui fréquentent cet espace vert propice à l'observation d'un large éventail d'espèces de la faune aviaire.
Dans l'univers, pas le choix de se coller en cuillère. À chaque matin, on s'aime moins qu'hier. Prends ma main, c'est un mal nécessaire. Faut se plaire jusqu'à Noël pour pas faire de peine à ta grand-mère avant de se jeter à la poubelle. On sait qu'on t'offre pas l'hiver, y'a pas de lumière dans notre sapin. Pauvre lui, il est déjà au bord du chemin. Sonneront les cloches de minuit, on saura que c'est enfin fini. Mais veux-tu rester mon ami? Il faut se plaire jusqu'à Noël pour pas faire de peine à ta grand-mère. un miracle de Noël.
Oui, on en espère des miracles, mais ça arrive pas toujours. Un traité de paix avec la mort pour conquérir la vie, c'est le titre de ce texte qui a été publié dans la presse, Yvan.
Oui, il y a deux jours, je pense que c'est mardi, et c'est un peu drôle, c'est Mélanie Noël qui a écrit le texte.
Ah oui.
Ça doit être le temps de l'année où elle fait sourire juste en disant son nom, probablement, cette personne. C'est un texte que je vais vous donner un des punchs avant même de commencer à le lire. C'est un texte sur les projets, sur les rêves. Alors, je trouvais que c'était un beau texte pour finir la saison avant de s'en aller en congé. Donc, on parle de Shauna Burke. C'est une Québécoise qui vit désormais au Royaume-Uni et elle retournera au Mont Everest en 2026. Moi, quand j'ai fait mon infarctus après un petit peu de remise en forme, j'ai monté le Mont-Royal. On s'entend que c'est des dimensions différentes,
oui.
Mais c'est des rêves semblables. Donc, elle retournera au Mont Everest en 2026 et si elle renouvelle l'exploit de conquérir son sommet, elle sera la première femme au monde atteinte d'un cancer incurable à réussir cette prouesse. En mai, un an après son diagnostic, elle démontrait que le pronostic des médecins ne modérait pas sa volonté de se dépasser en courant. Au Népal, lors d'un premier marathon en haute altitude, vous voyez que ses rêves sont différents de plusieurs autres, mais l'idée, c'est d'avoir des rêves, peu importe. Shauna Burke est un être humain d'exception et la maladie n'y change rien. Déjà, avant le diagnostic, elle était une personne remarquable. Première Québécoise et deuxième Canadienne à atteindre le sommet du Mont Everest en 2005. Post-doctorante en psychologie du sport. Professeure associée à l'Université de Leeds en Angleterre. Chercheuse et conférencière reconnue internationalement pour ses travaux sur l'impact de l'exercice physique sur les patients atteints du cancer. Ça, c'est avant. Parce qu'en mars 2024, la femme, alors âgée de 48 ans, apprend qu'elle a un cancer du sein stade 2. Elle ne se décourage pas et voit cette épreuve comme un nouveau défi qu'elle relèvera. Après tout, elle a déjà gravi 4 des 7 plus hauts sommets du monde. En plus de l'Everest, elle a effectivement conquis la Aconcagua en Argentine, l'Elbrouz en Russie et à 4 reprises le Kilimandjaro en Afrique. Mais des tests médicaux plus avancés révèlent en avril 2024 que la montagne devant elle est insurmontable. Son cancer du sein a migré dans le foie. Stade 4, incurable. Un tour du hasard qu'elle qualifie de surréaliste. Elle dit « J'ai passé ma vie professionnelle à étudier les effets du sport sur les personnes atteintes du cancer, principalement des femmes touchées par un cancer du sein. Puis, la chercheuse que je suis est devenue l'objet de la recherche. »
Surréaliste, alors, en effet, hein?
Oui, on aurait imaginé ce scénario de film-là, puis peut-être qu'on se serait fait dire que c'est un peu poussé. Alors, elle dit, j'ai décidé d'appliquer les connaissances et l'expérience que j'avais à ma vie, explique cette femme, originaire de Pointe-Claire, qui a grandi entre l'île de Montréal et les cantons de l'Est, où sa famille possède toujours une résidence. Pour ses recherches, la professeure avait accompagné dans leur ascension du Mont Kilimandjaro en 2009 un groupe de survivantes au cancer du sein. Elle a répété l'exercice 2 ans plus tard, en 2011, avec un groupe d'anciens combattants blessés. Elle pouvait ainsi noter ses observations et procéder à des entrevues pour faire avancer ses travaux. Aujourd'hui, elle collabore avec des chercheurs pour mesurer l'impact sur son système immunitaire de son entraînement, notamment dans une chambre à bas taux d'oxygène. Elle nous dit, après un tel diagnostic, la mort devient omniprésente. Mais cela vient, paradoxalement, avec une beauté incroyable. Chaque nouvelle journée est un cadeau. J'apprécie tout sans rien tenir pour acquis. Et puis, la seule façon que j'ai trouvée d'aller de l'avant a été de faire la paix avec l'idée de mourir. Quand j'ai réussi, je me suis sentie complètement libre et vivante. Elle continue en nous disant qu'il y a un parallèle à tracer avec l'Everest, car quand tu te mesures à cette montagne, tu dois accepter la possibilité de mourir au cours de l'ascension. Sinon, la peur te paralyse. Alors que si tu es en paix avec la mort, tu as la liberté de savourer chaque instant de la montée et de t'immerger entièrement dans l'expérience. Parenthèse de ma part, ça prend quand même un niveau de réflexion et de laisser aller hors du commun. Fin de ma parenthèse. Dans les mois qui ont suivi le diagnostic, Shauna Burke a subi 4 mois de traitement de chimiothérapie, une double mastectomie, 2 opérations au foie, 3 semaines de radiothérapie et une opération pour lui enlever les ovaires. Toutes ces interventions ne l'ont pas empêchée de bouger. Je courais 5 kilomètres pour me rendre à chaque perfusion de chimiothérapie, puis je rentrais en marchant. Pour la radiothérapie, je garais ma voiture à 5 km de l'hôpital et je courais jusqu'à mon rendez-vous, puis je revenais à pied. En mai dernier, 1 an et 1 mois après son diagnostic de cancer incurable, 1 mois après sa dernière opération au foie, Shauna Burke a couru son premier marathon à vie. Puis elle aurait pu courir ça à Montréal sur du plat, et non, pas n'importe quel. Elle a choisi de s'inscrire au marathon de l'Everest, qui débute au camp de base, qui est situé à 5356 mètres d'altitude et se termine 42,2 km plus loin à Namche Bazar, à 3446 mètres. Le comique que je suis, il dit « Ah oui, il était en descente tout le long. » Des participants étaient venus de 32 pays. La Québécoise a pris le 4e rang de sa catégorie avec un temps de 7 heures et 41 minutes. La plupart d'entre nous, qui sont quand même relativement en forme, courir 7 heures et 41 minutes, c'est hors de l'imagination. Alors, pensons à ce qu'elle a réussi. Elle prépare maintenant son retour à l'Everest prévu le 15 avril 2026. Elle estime que l'ascension de la plus haute montagne au monde prendra entre 6 et 8 semaines selon la météo. Une équipe américaine la suit dans son aventure pour tourner un documentaire qui s'intitulera « Dying to Climb » ou un désir innommable pour grimper. En 2017, Ian Toothill, un Anglais de 47 ans, atteint d'un cancer en phase terminale, a réussi l'ascension de l'Everest, selon la BBC. Il serait le seul grimpeur atteint du cancer à avoir accompli ce tour de force. Il s'est éteint en janvier 2018. Shauna Burke connaît les statistiques et le pronostic lié à sa maladie, mais elle souhaite continuer à vivre une vie qui lui ressemble. Elle dit « J'ai choisi de monter l'Everest. Le cancer m'a choisi. Dans les 2 cas, j'ai le même pouvoir, celui de choisir comment je réagis », mentionne-t-elle qui suit désormais un traitement d'hormonothérapie et doit passer un scan à tous les 3 mois. Malgré mon cancer, elle dit, je peux être résiliente, athlétique, active professionnellement. Je relève aussi le défi pour sensibiliser les gens qui reçoivent un diagnostic au fait que la réalisation de projets et de rêve est toujours possible. On peut continuer à y être présent. We can keep showing up. On peut être sur la scène et être la preuve que la vie ne s'arrête pas après le diagnostic.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways,
is Merry Christmas to you.
Christmas song, not King Cole, bien sûr.
C'est la chronique de Monique Kirouac, qui nous présente Marcel Bissonnette.
Exactement. C'est un article qui a été publié dans UDM Nouvelles sous la plume de Virginie Soffer le 12 décembre 2025. Et ça s'intitule « Marcel Bissonnette, comprendre la différence pour changer l'école ». Alors, on se situe au début des années 2000, alors que le Québec entreprend une vaste réforme scolaire. L'école se projette alors comme un milieu plus inclusif, sensible aux particularités de chacun et mieux préparé à répondre à la diversité des réalités vécues par les élèves. Mais que devient cette promesse lorsque l'école accueille des jeunes dont les besoins échappent au regard courant, comme ceux qui souffrent du syndrome de Gilles de la Tourette? Pour Marcel Bissonnette, professeur au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal, cette question est loin d'être abstraite. Je le cite, « Mon parcours, mon enseignement et ma recherche sont intimement liés à mon expérience personnelle d'enfant atteint du syndrome de la Tourette. Son histoire, marquée par un diagnostic tardif, nourrit aujourd'hui sa réflexion sur l'inclusion, la différenciation pédagogique, et la reconnaissance des élèves aux besoins particuliers. À 9 ans, Marcel Bissonnette est renvoyé de l'école de son visage. Je le cite à nouveau, « Je faisais alors partie des premiers de la classe, et pour mes parents, comme pour moi, cela n'avait pas de bon sens », se souvenant alors des années 1960. Son diagnostic initial, posé par une pédiatre du CHU Sainte-Justine, fait seulement état d'hyperactivité. Les tics vocaux et moteurs, les troubles associés, lorsqu'on parle de troubles associés, on inclut l'anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, scénario catastrophe et fatigue nerveuse, ne sont pas alors pris en compte. Il a fallu attendre presque 30 ans pour que cette même médecin remarque les progrès réalisés et s'étonne du bien-être adulte de Marcel Bissonnette. Cette observation l'a amené à s'interroger. Je le cite à nouveau, « Si la médecine a progressé, qu'en est-il des sciences de l'éducation? Combien d'enfants vivent encore avec ce que j'ai vécu? » Malgré les obstacles justement vécus, une ambition tenace le guide. Cette petite flamme intérieure et toute l'aide de ma famille qui m'aimait profondément m'ont permis de traverser les épreuves et de croire qu'un avenir universitaire était possible, se souvient-il. Marcel Bissonnette entreprend des études universitaires en enseignement du français langue seconde et en écriture, puis une maîtrise en éducation et finalement un doctorat en didactique. Il enseigne durant 15 années au secondaire. Recruté par l'Université de Montréal en 2012, il prend en charge des cours tels que laboratoire d'enseignement du français langue seconde et gestion de classe en français langue seconde. Son expérience sur le terrain lui sert alors. Je le cite, « Quand j'enseigne des concepts en psychopédagogie, je relis toujours la théorie au terrain. J'ai 15 ans d'expérience en classe et je sais ce qui fonctionne réellement pour les élèves. » Le chercheur, associé au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, prévient ses étudiants et étudiantes en début de session. « Vous allez peut-être apercevoir différentes expressions sur mon visage. Vous allez peut-être entendre des bruits, voir mes épaules tressauter et ma démarche changer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas contagieux. » Il y a le sens de l'humour en plus. Avant même de parler des défis scolaires, Marcel Bissonnette insiste d'abord sur ce qu'est le syndrome de Gilles de la Tourette. En fait, ce qu'il n'est pas, pardon. Le syndrome de la Tourette, ce n'est pas proférer des jurons à longueur de journée, précise-t-il, en évoquant le cliché le plus populaire. La majorité des personnes atteintes du syndrome de la Tourette ne présentent pas de coprolalie. c'est-à-dire la tendance morbide à utiliser des mots orduriers et scatologiques. Et les manifestations les plus médiatisées ne reflètent que peu la réalité quotidienne des élèves.
Mettons ça dans notre pipe.
Oui, exactement, Hélène. Soulignons et surlignons. Il souligne d'ailleurs aussi l'existence d'un autre malentendu. Les tics ne sont pas des comportements intentionnels. Ce ne sont pas des provocations, ce ne sont pas des manques de respect. Ce sont des décharges neurologiques. Certains tics sont visibles, d'autres presque imperceptibles, comme les micro-contractions, les tensions musculaires, les respirations bloquées ou les mouvements répétitifs de la langue. Le syndrome de Gilles de la Tourette n'est pas nécessairement un trouble du comportement ni un problème lié à l'opposition. C'est un trouble neurodéveloppemental très variable d'un enfant à l'autre et souvent accompagné d'anxiété, de fatigue nerveuse ou d'un besoin de contrôler un environnement difficilement prévisible. Comprendre cette réalité constitue la première étape pour éviter les interprétations erronées et bâtir une école véritablement inclusive. Or, malgré les intentions du système scolaire, les élèves qui vivent avec le syndrome de la Tourette se trouvent encore confrontés à de nombreux malentendus. Trop souvent, les tics sont mal interprétés. Les tics vocaux et moteurs sont parfois vus comme des gestes voulus. Ils sont alors considérés comme de l'insolence, un manque de respect ou un refus de collaborer. Les tics physiques, frapper sur une table, faire un geste brusque, cligner excessivement des yeux, peuvent être pris pour de la provocation, une réaction émotive forte ou un comportement oppositionnel. Les mouvements répétitifs peuvent être associés aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, à de l'agitation ou à une incapacité à rester en place. Aussi, les tics sont involontaires, imprévisibles et amplifiés par le stress, l'effort ou la fatigue. Bien les comprendre permet d'éviter les sanctions injustes et de mieux soutenir l'élève dans sa trajectoire scolaire. Les perceptions inexactes isolent les élèves et fragilisent leur motivation, fait observer Marcel Bissonnette. Et ce problème s'accentue avec la grande mobilité du personnel enseignant. Chaque changement de professeur oblige l'élève à réexpliquer son trouble et ses déclencheurs, ainsi que ses stratégies d'adaptation. La rupture du lien de confiance engendre stress, frustration et baisse de motivation. Pour Marcel Bissonnette, il est essentiel de donner aux élèves une voix dans le système scolaire. Les écouter permet de mieux comprendre ce qui les aide, plutôt que de se concentrer sur leurs difficultés. Faire entendre leur voix, c'est créer des lieux propices au partage et à l'ouverture, déclare-t-il. La vision éducative de Marcel Bissonnette repose sur l'idée que la différence ne doit jamais être un obstacle à la réussite. Alors, voici quelques stratégies qu'il préconise. D'abord, placer l'élève dans un cadre sécurisant sans l'isoler. Ensuite, utiliser des codes discrets pour l'aider à se recentrer. Aussi, lui offrir différents modes d'apprentissage et normaliser les tics auprès des camarades pour réduire la stigmatisation. Marcel Bissonnette insiste sur l'importance des arts et du sport pour canaliser l'énergie, renforcer la confiance et développer l'identité de l'enfant. La musique et le sport permettent à l'élève ayant le syndrome de la Tourette de se découvrir autrement et de s'épanouir. En témoignant de son expérience, il veut éviter que d'autres enfants vivent les mêmes incompréhensions. Je le cite finalement, « À ma famille, vivant avec le syndrome de la Tourette et aux parents à bout de souffle pour qui le cri d'espoir n'a pas d'écho, je dis « Osez rêver ». N'est-ce pas un témoignage éloquent?
On y revient toujours à ce rêve. Oui, absolument éloquent. Merci Monique et merci aussi à Marcel Bissonnette. C'est un article, une entrevue que vous avez trouvée dans nouvelle.umontréal.ca, signée Virginie Soffert.
J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous. Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, pis j'avais fait net quand je revenais de passer trois heures dans un igloo. Qu'on avait fait deux ou trois gars chez Girondou. J'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu. Qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs. La même année où j'ai passé, et le temps des fêtes avec sa tête une sucre d'orgue. Parce que je voulais me faire passer pour la garder. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, pensant bien faire, m'avait habillé en communion. Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout de petit puits frère. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler. Fais des étoiles, j'peux-tu avoir un autre hockey? J'ai perdu le mien au sang des sept, hein? J'l'ai échangé contre des photos où on voit rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut TQ, on se reverra le 7 janvier.
Un incontournable, 23 décembre, beau dommage. On y va déjà avec les brèves. À vous la parole, cher Yvan Deslauriers.
Oui, alors mes brèves de cette semaine et de la fin de cette année 2025 sont tirées d'une infolettre qui s'appelle l'infolettre La Lancée. C'est une infolettre sur l'activité physique et le sport au féminin pluriel. Alors, quelques sujets qui ont marqué jusqu'à un certain point l'année 2025. Donc, je commence par le Nadia. Est-ce que vous avez entendu parler du restaurant Le Nadia?
Non, pas du tout.
Alors, Le Nadia, c'est une guinguette sportive montréalaise. C'est au coin de Ontario et Désiry. Ça a été créé pour promouvoir la diffusion de sports féminins. Et une des propriétaires dit « il faut laisser le produit se développer ». Alors, le restaurant Le Nadia, c'est la première guinguette sportive montréalaise consacrée exclusivement au sport féminin. Ça a ouvert ses portes le 4 décembre.
Ah, c'est tout récent.
Oui, c'est tout récent. C'est tout à fait normal qu'on n'en ait pas entendu parler.
Est-ce que c'est un établissement réservé aux femmes?
D'après les photos, non.
Bienvenue aux hommes. Mais,
oui, mais comme hier soir, il y avait un match de la Victoire de Montréal, j'imagine que j'aurais pu aller voir ce match-là à cet endroit-là. Je pense que j'aurais été plus à l'aise de vous inviter, Hélène, pour y aller que d'y aller par moi-même. Là, mais ça, une fois que je serai allé, une fois, je verrai. C'est une des copropriétaires, est née en 1976.
OK, le Nadia, Nadia Comaneci, évidemment.
Exactement. Oui. Alors, donc, un endroit peut-être pour aller lors de... Puis il va y avoir des Jeux olympiques d'hiver cette année, alors il va probablement avoir plusieurs diffusions de sports filmés.
Bon, alors vous avez donné le goût de découvrir le Nadia. Oui, il y a aussi...
Oui. Il y a aussi un film qui est sorti il n'y a pas longtemps, Les Furies, au cinéma. Ça, c'est Roller Derby et Solidarité au féminin. C'est un film qui a connu beaucoup de succès. Alors, dans le temps des fêtes, là, si on cherche un endroit pour avoir du bon temps, je pense que c'est un bel endroit pour aller. Le film Les Furies, c'est au cinéma depuis le 28 novembre et ça arrive à point nommé dans les discussions sur la place des femmes dans le sport. Cette première comédie sportive québécoise, presque entièrement féminine, suit un groupe de femmes qui crée une équipe clandestine de roller derby après avoir été expulsés de leur aréna au profit d'une équipe masculine. Le film célèbre la joie et la solidarité féminine plutôt que l'hyper-performance.
Et deux semaines après sa sortie, Les Furies cumulent des recettes de plus de 500 000 $ au box-office. Ça va bien.
Ou bien même un demi-million.
Ouais, vu de même. Alors, on passe à Monique, trois des 15 découvertes de l'Université de Montréal qui ont marqué 2025.
Oui, je commencerai par une nouvelle approche pour bloquer la propagation des cellules cancéreuses. On parle beaucoup de cancer, alors aujourd'hui, je pense que c'est une bonne nouvelle. L'équipe de Marc Terrien à l'Institut de recherche en immunologie, en cancérologie, a montré que certaines formes mutées de la protéine BRAF, B-R-A-F, échappent au contrôle cellulaire et restent constamment actives, ce qui alimente la croissance de nombreux cancers. Alors, en ciblant une petite hélice clé de la protéine, ben, l'équipe est parvenue à la rendre inactive, ce qui ouvre la voie à de nouveaux traitements pour bloquer la prolifération des cellules cancéreuses. Deuxième nouvelle que j'ai retenue parmi les 15, quel est l'effet du café sur un cerveau endormi? Eh bien, à l'aide de modèles d'intelligence artificielle, une équipe de recherche a décortiqué l'action de la caféine sur le cerveau au moment où l'on sombre dans le sommeil. Les résultats détaillent avec une précision inédite comment un simple café peut retarder l'endormissement et modifier l'activité cérébrale. Alors, attention au café avant de dormir. Finalement, un hamac pour les nouveau-nés prématurés. Eh oui, un hamac. Alors, dans son doctorat en sciences infirmières, Adèle Sève a conçu et évalué un hamac néonatal destiné aux nouveau-nés prématurés. Son projet explore comment ce dispositif peut favoriser le confort, la stabilité physiologique et le développement des nourrissons hospitalisés. Alors voilà trois de ces 15 nouvelles scientifiques de l'Université de Montréal.
Et si on veut découvrir les 12 autres, on va où? Sur le site de l'Université de Montréal.
On va sur UdeM Nouvelles et on fait 15 découvertes et on arrive sur les 12 autres. Pardon.
Parfait. Yvan?
Oui, toujours dans l'infolettre de la Lancée, qui est une infolettre sur l'activité physique et le sport au féminin. Un incontournable de l'actualité de 2025, c'est l'accès de Daniel Sauvageau au temple de la renommée du hockey au Canada. Ben, en fait, le temple de la renommée du hockey, pas au Canada, du hockey, point à la ligne. Alors, Daniel Sauvageau, c'est une visionnaire qui est une pionnière dans un milieu d'hommes. Elle est devenue, en 1999, la première femme entraîneur adjointe dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, ouvrant la voie aux générations suivantes. En 2002, trois ans plus tard, elle est nommée entraîneur-chef de l'équipe nationale féminine et elle a mené les Canadiennes à leur première médaille d'or olympique historique à Salt Lake City. Elle est maintenant la directrice générale de la Victoire de Montréal et c'est une femme qui a ouvert de nombreuses portes et qui a permis à plusieurs jeunes filles de pouvoir exercer le sport qu'elle adore, c'est-à-dire le hockey.
On l'applaudit.
Donc, à lire, il y a un article sur elle dans la presse cette année.
Et, dans la presse cette année?
Oui, ben je sais pas où. Okay. Ben, attendez, je peux vous le dire. Il y a un dossier qui a eu lieu le 6 novembre.
Ah, ça fait pas si longtemps.
Sur elle. Ça fait pas très longtemps, effectivement. Et je termine ma revue des dossiers de cette infolettre par un autre organisme. En fait, qui a pignon sur rue, sur la rue Ontario, donc dans Mercier, Hochelaga-Maisonneuve.
Près de chez Nadia.
Près de chez Nadia, effectivement. C'est un nouveau gym qui a été pensé pour les femmes et leurs enfants. Ça s'appelle Mama Gym et compagnie, qui a ouvert ses portes dans Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, un gym exclusivement féminin, doté d'une garderie intégrée. C'est une rareté au Québec.
Beau concept.
C'est vraiment rare qu'une femme puisse penser à elle pendant une heure, affirme sa fondatrice, qui combat l'isolement postpartum en offrant aux mères un espace pour s'entraîner sans la charge mentale de la garde d'enfants. Alors, c'est dans... Merci, Hochelaga Maisonneuve.
Merci. Monique, expliquez-nous ça, là. Les grands problèmes paraissent petits.
Oui, alors, il y a pas moins de 15 études, Hélène, qui étayent ce « big problem paradoxe ». Alors, le paradoxe des grands problèmes. Il semble que plus un fléau concerne un grand nombre de personnes, moins il nous semble grave. Alors, que ce soit alcool au volant, pauvreté, microplastique, chaque problème présenté à 2636 participants était systématiquement jugé moins grave quand il était assorti de données sur l'ampleur de sa fréquence. Alors, par exemple, les microplastiques dans l'eau du robinet de 99,9% des gens, hein, c'est assez majeur. Ben, alors, tout ça, c'est le résultat d'une vision optimiste du monde, écrivent les psychologues. Quand on a la conviction que le monde est bon, on suppose que les problèmes répandus sont pris en charge. Et on se dit qu'on n'a pas personnellement besoin de réagir. Pire que ça, certains participants sont même moins enclins à aider quelqu'un qui souffre de douleurs de la poitrine, sachant que c'est le cas de 9 millions d'Américains chaque année. Alors, plus c'est gros, moins on s'engage, en fait.
Eh bien, c'est intéressant.
Étonnant, n'est-ce pas?
Oui, on pourrait en discuter longtemps. Et on termine avec, je sais pas, Yvan, si vous aviez d'autres choses.
Oui, moi, j'ai un souhait que j'ai déjà offert à plusieurs personnes qui me sont importantes. Et considérant les articles qu'on a choisis, Monique et moi, aujourd'hui, je pense que c'est de bon ton. Ça vient de Jacques Brel. Alors, je vous souhaite ça pour 2026. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Oh, des souhaits merveilleux, ça. Merci, Yvan.
Ben oui. Ben, il y avait une certaine talent avec la langue française.
Oui, 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 vraiment, je confirme. Et une capsule linguistique pour terminer.
Alors, vous avez fait une demande spéciale, Hélène, faire la différence. Alors, est-ce qu'on parle de ces petites initiatives qui peuvent faire la différence? Alors, lorsqu'on associe faire la différence au fait de changer les choses, généralement pour le mieux, ben c'est un calque de l'anglais. Au lieu, on pourrait dire, ben, tout simplement, changer les choses. Alors, on parle de ces petites initiatives qui peuvent changer les choses ou qui peuvent faire avancer ou évoluer les choses. La locution « faire la différence » est un synonyme de « distinguer » et elle est généralement suivie de la préposition « entre ». Alors, on peut dire, par exemple, que certaines personnes ne peuvent pas faire la différence entre un crocodile et un alligator. Et voilà.
OK.
Ou dromadaire et chameau.
Ben, par exemple.
Faire la différence. En tout cas, j'allais dire que vous faites la différence à Canalem, mais là, on ne peut plus l'employer.
Non, non, absolument pas, Hélène.
Vous changez les choses pour le mieux.
Exactement. Je fais évoluer les choses. En tout cas, faire évoluer l'usage, l'utilisation des mots justes dans la langue française.
Avez-vous pris la résolution de revenir à Canalem en 2026?
Ah, bien sûr!
Super! Et puis oui. Vous, Yvan, oui! Vous n'avez pas le choix de dire
ben
oui,
oui,
hein?
C'est sûr.
Non.
Et on recommence ben oui. Quand, Hélène?
Alors, on recommence dans la semaine du 5 janvier.
D'accord.
Donc, en principe, on va faire de la radio ensemble le 8.
Super.
Je vous souhaite
De joyeuses fêtes.
Oui, merci. Vous de même, Monique, des joyeuses fêtes remplies de bonheur, de repos, de sérénité, de bonne nourriture et de bons amis et plein d'amour et de chaleur humaine pour vous, Monique, et pour vous aussi, Yvan, ainsi que toutes vos familles respectives.
Merci beaucoup.
Merci,
à l'année prochaine.
Bye. Thank you.
deux petites minutes, ton joint Dominique Tremblay qui va faire sa chronique parasport. Il va nous parler, entre autres, d'Alexis Guimond et de Priscilla Gagné. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour Dominique Tremblay.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va, et vous?
Très bon, les vacances de Noël approchent.
Oui.
Ça, c'est le bon.
Ça s'en vient. Dominique, oui. À la chronique parasport, vous commencez par nous parler d'Alexis Guimond, qui s'illustre oui. dans des compétitions de para-ski alpin.
C'est cela, les pentes européennes ont été très favorables à Alexis Guimond et aussi à d'autres athlètes canadiens. La première arrêt était à Stenach en Autriche. Alexis a remporté deux médailles d'or lors de deux descentes de Super G. Ça a été vraiment deux belles compétitions pour lui. Là. C'était la première compétition de Coupe du monde de la saison et ça augurait bien pour le reste de la compétition. Chez les femmes, il y a aussi Molly Jacobsen qui faisait un retour à la compétition et qui a remporté deux médailles d'argent lors des compétitions féminines de Super G. Il y avait un deuxième arrêt quelques jours plus tard en Italie, à Santa Caterina. Ce n'est pas le même endroit où les compétitions de ski alpin vont avoir lieu lors des Jeux paralympiques de Milan au mois de mars. Et Alexis Guimond a encore une fois remporté des médailles. Lors, cette fois-ci, c'était lors des compétitions de descente. Ça a été très bien pour lui. Il y a d'autres Canadiens aussi qui sont montés sur les différentes marches du podium. C'est qui démontre une belle profondeur pour le Canada pour les Jeux paralympiques qui vont avoir lieu dans quelques mois. Ça va être très intéressant de voir les résultats du Canada qui vont être capables d'obtenir lors de ces Jeux paralympiques. Alexis Guimond va être la vedette de cette équipe très profonde de paraski alpin. Et c'est une des raisons pourquoi on avait parlé il y a deux semaines qu'il avait été nommé co-capitaine de l'équipe de paraski alpin. Alors, Alexis fait bien dans son rôle de leader.
D'Alexis, on passe à Priscilla. Priscilla Gagné qui renoue avec la compétition de para-judo.
Oui, c'est sa première compétition depuis les Jeux paralympiques de Paris il y a à peu près un an et demi. Lors des Jeux paralympiques, elle s'était inclinée en finale pour la médaille de bronze dans les catégories de moins de 57 kilos, pardon, dans la catégorie J1, le judo est pour des personnes avec une déficience visuelle. Et donc, Priscilla compétitionne dans la catégorie J1. Cette fin de semaine, elle participe au championnat des Amériques et elle va compétitionner dans la catégorie des moins de 52 kilos. C'est une bonne chose pour Priscilla, puisque à Paris, elle compétitionnait dans les catégories de 57 kilos. Elle était une des athlètes les plus légères de ce groupe de compétition. En étant chez les 52 kilos, elle est une des athlètes qui est le plus proche là, de la limite de poids, ce qui, dans le judo, c'est très important parce que quand c'est plus difficile de faire des prises avec des personnes qui sont un petit peu plus pesantes, donc c'est une bonne chose. C'est aussi la première compétition sans son entraîneur de toujours, Andrej Sadé, qui a pris sa retraite après les Jeux paralympiques. Donc ça va peut-être être une petite période d'adaptation pour Priscilla Gagné, qui peut-être pourrait être à Los Angeles en 2028.
Et Dominique, vous terminez avec un retour sur la compétition internationale de rugby en fauteuil roulant.
Oui, il y avait une compétition qui s'est déroulée à Montréal en fin de semaine dernière. C'était la 14e édition de ce tournoi invitation. Il y avait une équipe d'Ottawa, une équipe de la Colombie-Britannique et la cinquième équipe était des États-Unis, de l'État du New Hampshire. Il y avait deux équipes du Québec. Chez les Québécois, il y avait beaucoup de membres des équipes nationales qui représentaient le Québec. Et je vais vous dire, les Québécois ont pas été très accueillants pour la visite, puisque les deux équipes québécoises se sont rencontrées en finale. Alors, c'est eux qui se sont partagé le podium. Donc, très belle performance pour les Québécois.
Alors, c'est là-dessus qu'on se dit joyeux Noël?
À vous aussi, madame.
Merci, monsieur.
Et on se voit l'année prochaine.
Oui, bien, j'espère que vous allez venir me voir en studio.
Peut-être qu'on va être capable de faire ça pour l'année prochaine.
Ça serait vraiment apprécié. Bien, sinon, Dominique, on se retrouve au téléphone, comme d'habitude. Et puis, merci pour votre contribution à cette émission. C'est toujours très apprécié. Portez-vous bien.
Merci beaucoup, c'était un plaisir.
Joyeuse fête à vous et à toute votre famille.
À vous aussi.
Merci.
Et amusez-vous bien. Au
oui,
revoir.
Vous aussi.
Décembre revient, quand la neige neige, ton visage me revient en rafale de rire d'étoiles. C'est nous deux à l'envers, dans mes rêves, rêves, à ces Noëls rouges et verts, nos 8 ans, nos amours d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile. Petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Quand décembre revient, quand résonne, sonne minuit, mon cœur se souvient des manèges de boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisaient tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Plus décembre revient, plus la neige neige, sur mes Noëls rouges et verts, mes 8 ans, mes amours d'hiver. Petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Plus décembre revient, plus la neige neige, sur mes Noëls rouges et verts, mes 8 ans, mes amours d'hiver.
Une immortelle, Marie-Noël, une chanson de Robert Charlebois et de Claude Gauthier, et on entendait la voix de Robert Charlebois. Et on passe maintenant à une voix tellement chaleureuse que notre ami Mathieu Tessier apprécie, et il n'est pas le seul, mais ça lui prend son Fernand à chaque année dans le temps des fêtes. Voici donc Fernand Gignac.
Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut, le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Joyeux, joyeux Noël aux 1000 bougies quand chantent vers le ciel les cloches de la nuit. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d'hiver. Mon beau
sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin.
Vous écoutez Au quotidien.
Chante-la la chanson.
Ici Grégory Charles. Dans la première de Tous en chœur, je vous invite à être témoin de la création d'une chorale unique. Tous les participants vivent avec l'Alzheimer.
La bonne nouvelle pour moi, là, c'est qu'avant même qu'on se dise bonjour, la première chose que je vous entends faire, c'est chanter ensemble. Fait que là, il y a des chances qu'on ne trouve pas ça plate.
Vous entendiez la chorale de Tous en chœur. C'est en fait un extrait de Tous en chœur pour Noël qui sera diffusé le 20 décembre. C'est très bientôt, samedi. Et on attend le retour d'appel de Grégory Charles. Et en attendant, voici ce souvenir, ce grand classique aussi du temps des fêtes. On parle de musique et on parle de films. Vous vous souvenez de « Maman, j'ai raté l'avion », ce grand classique. Est-ce que Grégory est là? Ah bien, on y va. On parle tout de suite avec lui. Bonjour Grégory Charles.
Oui, bonjour.
Ah, alors ben merci d'être là. On vient d'entendre la chorale de Tous en chœur pour Noël qui chantait « Il est né le divin enfant » et vraiment, vous les avez dirigés avec beaucoup, beaucoup de doigté. Ils chantent bien, la voix est juste. Et Tous en chœur pour Noël sera diffusé, comme je le disais tantôt, le 20 décembre à compter 18 h sur Ami Télé et sur Ami Plus dès le lendemain. Et c'est un épisode spécial d'une heure où vous retrouvez la chorale qui a touché tout le Québec, je pense, lors de la série Tous en chœur. Et merci d'être là, Grégory Charles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de replonger dans l'aventure de Tous en chœur à l'occasion de ce spécial de Noël?
Ben d'abord parce que pour les gens qui ont l'habitude, peut-être comme moi aussi, de faire de la musique chorale, on fait pas juste de la musique, on finit par être par des amis, par être une famille. Et puis... Alors, à l'occasion du temps des fêtes, en général, les chorales, ça chante beaucoup. Puis je me disais qu'après avoir passé 5 mois à travailler ensemble, que ce serait que ça nous ferait du bien à nous, déjà, en partant, de se retrouver, que ça ferait du bien aux gens qui allaient nous entendre et nous écouter aussi. Mais je me suis dit aussi que ça allait compléter ou en tout cas poursuivre dans ce cycle-là. Mon but, moi, c'était dès le départ de montrer que parce que j'ai eu l'expérience avec mes propres parents qui ont été atteints de la maladie d'Alzheimer, que c'est pas parce que ça ralentit ou que ça change que c'est fini, puis que la musique, ça n'est pas seulement un souvenir ou un élément nostalgique pour des gens qui sont atteints de maladies neurocognitives, mais c'est aussi un loisir, c'est aussi une façon de se dépasser, c'est aussi une façon d'accomplir quelque chose, et c'est surtout une façon de socialiser avec d'autres. Et alors là, je pense que l'épisode qu'on va voir pour le temps des fêtes va me montrer à quel point, pour des gens qui, on suppose très souvent, n'ont que de la mémoire à long terme et pas de mémoire à court terme, ben ils se rappelaient tous ensemble d'avoir passé plusieurs semaines à travailler ensemble, et puis ils se rappelaient de chansons de Noël, mais ils étaient prêts aussi à apprendre de nouvelles choses. Et il faut dire qu'on a été, nous, très, très encouragés par le fait qu'il s'est créé, depuis le début de la diffusion de cette émission-là à Annie, il s'est créé quelques dizaines de cœurs, hein, un peu partout.
Ah oui,
dans
ça
des,
fait des petits!
Dans des, absolument, dans des résidences de personnes âgées, dans des CU3S. Il y a plein de gens qui, je pense, ont été émus par ça, mais qui étaient aussi dans une position où ils peuvent, où elles peuvent offrir à des gens proches d'eux ou à des gens dont ils sont responsables le même genre d'activité.
C'était moi, un de vos souhaits, d'ailleurs.
Ben, tout à fait. Moi, j'ai envie de dire, ma mère a décliné vraiment très, très lentement et très, très longtemps avec la maladie d'Alzheimer. Je suis convaincu que la musique y est pour quelque chose. C'est sûr que quand on est proche aidant, ça nous fait de la peine de voir les gens qu'on aime, qu'on a aimés, qui nous ont aimés, changer, puis décliner. Mais c'est pas fini, c'est pas la fin. Et cet épisode-là, on est allé encore plus loin. Là, j'ai demandé à certains de faire des solos. Et puis, alors dans mon équipe, il y en a qui disaient, tu trouves pas que c'est un peu beaucoup de pression? Mais non, ils ont relevé ce défi-là aussi avec brio. Alors, c'est pas juste émouvant, ça montre que ça continue, que la vie continue, puis qu'il faut être patient avec les gens qui ont des enjeux neurocognitifs. Et on peut en retirer un énorme bonheur, et eux aussi.
Et vous, Grégory Charles, il me semble que vous n'êtes pas un modèle de patience, mais dans cette émission-là, dans Tous en cœur, j'ai regardé la série, j'ai regardé aussi Tous en cœur pour Noël, on dirait qu'on découvre un Grégory Charles encore plus tendre, encore plus sensible et très volontaire aussi. Vous passez un test pour savoir si vous êtes porteur du gène de l'Alzheimer, un IRM du cerveau, on voit votre cerveau, on a vu les cordes vocales de Céline Dion, on voit le cerveau de Grégory Charles. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes tant abandonné et que aussi vous avez été si gentil, patient, attentionné avec autant les proches aidants que les personnes qui vivent avec l'Alzheimer?
Bien, votre question est vraiment très bonne. Je résiste un peu à l'idée de répondre parce que, mais pour la raison suivante, moi, je fais du chant choral depuis que je suis tout petit. J'ai été un choriste d'abord et ensuite un chef de chœur. J'ai envie de dire, je suis avec nos choristes Alzheimer pas mal comme j'ai toujours été avec des choristes. Moi, j'ai travaillé surtout avec des enfants. Moi, cette passion-là d'être ensemble et de pouvoir faire de la musique, elle m'habite. Je sais quel effet elle peut avoir sur les gens. Et donc, j'ai envie de dire, ça va peut-être vous étonner comme réponse, mais j'ai envie de dire que j'ai traité nos choristes Alzheimer comme je traite tous les choristes depuis 40 années que je dirige des chœurs.
Avec une infinie délicatesse et beaucoup de tact, je trouve.
Ben, en fait, ce rôle-là, là, d'être au centre d'un groupe, on a besoin, je pense, d'avoir plus d'empathie, plus d'écoute. Étonnamment, parce que c'est souvent la personne qui dirige qui parle le plus. Mais il faut avoir plus d'écoute, il faut avoir plus d'empathie, il faut avoir plus d'énergie. Parce que dans un groupe, que ce soit des gens qui ont des ennuis neurocognitifs ou pas, il y a les gens, ils se passent des choses dans leur vie, puis des fois ils sont fatigués, puis des fois ils ont une mauvaise nouvelle. Puis alors il faut leur faire, les aider à passer par-dessus ça pour qu'on accomplisse en groupe quelque chose. Et la raison pour laquelle j'y crois tant, c'est parce que dans la vie, encore une fois, qu'on soit atteint d'une maladie neurocognitive ou qu'on ne le soit pas, réussir des choses, accomplir des choses, c'est un un trajet vers le bonheur. Et réussir des choses, accomplir des choses avec d'autres, c'est encore plus un trajet vers le bonheur. Alors pour ça, mais ça prend une personne qui dirige, qui est, comme je disais, empathique, qui écoute, ça prend un peu d'humour, ça prend de la rigueur, ça prend de l'aspiration, c'est-à-dire de convaincre les gens qui sont là, qui vont y réussir quelque chose, avant même qu'ils aient accepté eux-mêmes ou elles-mêmes qu'ils sont capables de le faire. Puis évidemment, mon expérience avec ma mère et mon père, moi, ma mère était une femme extrêmement intense, très rigoureuse, très sévère. Ça a été mon meilleur partenaire dans la vie, ma mère. Évidemment, de la voir ralentir, c'est pas évident. Puis je peux pas dire que j'ai réagi immédiatement avec autant de douceur. Au départ, je me disais, on va vaincre ça, cette maladie-là. Ma mère, c'était une cruciverbiste, ça faisait des mots croisés. Je me suis dit, on va en faire 10 par jour. Nous, l'Alzheimer, ça va pas gagner.
Ouais.
Et il m'a fallu quelques semaines pour comprendre que c'est pas ça le rôle. Le rôle, c'est un rôle d'accompagnement, c'est un rôle d'écoute, c'est un rôle de vecteur vers du sourire, vers du bonheur. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec nos choristes. Et puis, ils me l'ont rendu amplement parce que j'ai reçu d'eux beaucoup de tendresse. En plus de recevoir de la Belgique, j'ai reçu d'eux vraiment beaucoup, beaucoup de tendresse et d'affection.
Alors, les retrouver 5 mois après les premiers tournages, ça a éveillé quoi en vous?
Ben, d'abord, un espèce de choc de la réalité, hein, parce que 5 mois plus tard, il y en a qui ont vieilli. Il y en a pour qui la maladie a progressé. Il y en a, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a qui n'ont pas pu reprendre du service dans la chorale avec nous parce que c'était physiquement trop. Parce que dans ces 5 mois-là, ben, leur santé a décliné. Alors, il y a ça. Hein, il y a la prise de conscience qu'on peut bien faire tout ce qu'on veut. Là. On peut faire de la thérapie, on peut... de la musicothérapie, du sport, tout ça, n'empêche que les gens qui sont atteints d'une maladie neurocognitive, le temps continue d'agir sur eux,
mm-hmm.
et la maladie continue d'agir sur eux aussi. Alors, il y a ça, d'abord, mais il y a ensuite, ça c'est fou, l'instantanéité avec laquelle, quand je les ai retrouvés, ils ont répondu, oui, on embarque dans ton projet, mais c'est comme si on ne s'était pas quitté. Et donc, on pourrait s'attendre à ce que des gens qui sont atteint la maladie d'Alzheimer, se rappelle même pas de l'expérience précédente. Mais comme le disent nos proches aidants et ceux qui les entourent et nos spécialistes dans cette émission spéciale, et ils s'en rappellent de leur expérience, ça les a marqués et ils avaient envie que ça se poursuive. Et je veux pas brûler de punch, mais ils n'arrêteront pas non plus après cet épisode-là. Ils vont continuer de chanter ensemble. Ça semble être une décision qu'ils ont prise pour la vaste majorité.
Excellente nouvelle. Est-ce que vous pensez que Tous en chœur pour Noël peut changer la perception du public ou Tous en chœur point, parce qu'il y a aussi la série? Est-ce que ça peut changer la perception du public face à la maladie d'Alzheimer ou face aux personnes qui en sont atteintes?
Certainement. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a des éléments qui sont, appelons ça, sociétaux. D'abord, la première chose, c'est que on peut pas faire semblant que les maladies neurocognitives n'existent pas. Il est vraiment trop tard pour ça. L'Alzheimer et les autres maladies neurocognitives, c'est un enjeu majeur de société pour les décennies à venir. Alors, le fait d'en parler, c'est extrêmement important sur le plan de la santé publique et de l'avenir de nos sociétés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je m'évertue à dire depuis plusieurs années, là, j'ai eu une plateforme pour le dire, je m'évertue à dire que on met beaucoup trop d'emphase quand on est proche aidant, quand on n'est pas atteint par la maladie, mm-hmm. sur le « il me reconnaît plus » ou « elle me reconnaît plus » ou « elle m'appelle par le mauvais nom ». On met beaucoup trop d'emphase. En fait, on est beaucoup trop centré sur nous-mêmes quand on approche une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Est-ce que c'est parce qu'on comprend pas la maladie?
Je pense pas que c'est malveillant. Je pense pas que c'est parce qu'on veut, pas. Je pense que c'est parce que ça nous fait peur, d'une part.
Ouais.
Et qu'on préfère l'ignorer. Et on préfère s'arrêter sur la superficie. Mais la superficie, là, de quelqu'un qui ne nous reconnaît pas instantanément, là, c'est pas si grave. La mémoire, comme on l'explique dans la série, c'est pas, on n'est pas comme des ordinateurs. Notre siège de mémoire, il est multiple. Puis pour l'éveiller, il faut que plein de parties du cerveau soient en action. Et puis, alors, juste d'arriver devant quelqu'un qui a l'Alzheimer, puis lui dire, « Hey, me reconnais-tu? » C'est pas ça, notre job. Et je pense que c'est ce que les gens ont vu et compris. Notre job, c'est
de vivre le moment présent.
Oui. Et ma mère me le disait, moi, quand elle était atteinte de la maladie au début, ce qui lui faisait le plus de peine, c'est que les gens commençaient à parler autour d'elle. C'est-à-dire que ils étaient pas confortables. Et on les comprend, les gens, là, de ne pas être confortables. Parce qu'ils avaient eu l'habitude d'une femme extrêmement vive, extrêmement intelligente, puis là, subitement, c'est pas où les réponses sont aussi promptes, sont parfois un peu plus vagues. Mais ça ne veut pas dire que les réponses ne sont pas là. Ça peut prendre beaucoup plus de temps pour y arriver. J'ai envie de donner un exemple, si vous me laissez quelques secondes.
Allez-y.
Dans notre série, j'ai décidé de faire une surprise un moment donné dans la série, pas dans l'émission spéciale, mais dans la série. J'ai décidé de faire une surprise à nos choristes.
Vous êtes bon pour organiser des surprises, autant dans la série que dans l'émission qu'on va voir samedi.
C'est ça, j'aime ça faire ça. Mais alors, je leur organise une surprise où j'ai monté un petit quelque chose avec leur proche aidant. Alors, j'ai décidé d'étendre l'expérience chorale en demandant au proche aidant de chanter. Et là, je les cache derrière un rideau. Et là, nos choristes Alzheimer sont devant moi. Et là, les spécialistes m'avaient bien dit, hey, d'après moi, ils n'auront pas de forte réaction. Et ils avaient raison. Le rideau s'ouvre, nos prochains dents se mettent à chanter et ils n'ont pas de forte réaction. Alors que, mettons que chez des gens qui n'ont pas cet enjeu-là, ils auraient une réaction immédiate de oh, c'est fin. Non, ils n'ont pas eu de forte réaction. Mais le lendemain, je suis avec plusieurs d'entre eux à faire de la musicothérapie. Et je leur demande, avez-vous aimé ça? Et il y en a un qui est parmi les plus vieux, André, qui répond, ah oui, j'ai aimé ça, mais c'était pas aussi beau que hier quand ils nous ont surpris en chantant. Oh. Alors, le lendemain, l'information était là, elle était accessible. Mais sur le coup, et alors nous, qui ne sommes pas atteints de maladies neurocognitives pour l'instant, nous, on pense que parce qu'il n'y a pas une réaction instantanée, spontanée, que c'est-tu de valeur, ça marche plus, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un peu comme avec des enfants de 3-4 ans, quand on se penche et qu'on leur demande c'est quoi leur nom et qu'ils nous répondent pas immédiatement, on se relève tout de suite et là, on demande aux parents. Mais on ne s'est pas demandé pourquoi l'enfant ne nous a pas répondu. Peut-être qu'il ne nous a pas répondu parce qu'il ne sait pas qui on est. Alors, qu'il ne nous a pas répondu parce que les parents ont dit « Hey, tu ne parles pas à des
étudiants. » Oui. Alors, il faut être à l'écoute, il faut être attentif, Grégory, Charles. Exact. Il me reste plus de temps, mais je vous souhaite joyeux Noël, bonne année. J'invite les gens à découvrir cette série et cette émission « Tous en cœur pour Noël ». Merci, Grégory.
Et merci à vous. Joyeuse fête.